Exposition biblique, chapitre 3. Il doit y avoir un discernement spirituel. L'Église bâtie sur l'Évangile, Jésus-Christ seul, est l'unique fondement. Celui qui est devenu un père spirituel sait-il d'où viennent les disputes des saints? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme, quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Celui qui est devenu un père spirituel peut discerner d'où vient la racine des disputes qui surviennent parmi les saints. Ce n'est pas simplement dû à l'expérience humaine ou à la capacité de gestion organisationnelle, mais parce qu'il peut voir le cœur humain et l'état spirituel avec la parole de Dieu et la sagesse du Saint-Esprit. La Bible explique déjà clairement la racine des disputes qui surviennent au sein de l'Église de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 1 dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» En d'autres termes, cela signifie que bien que la plupart des disputes au sein de l'Église semblent commencer par des problèmes externes, en réalité, elles proviennent d'une fausse connaissance à l'intérieur du cœur humain et du fait de ne pas croire exactement la même parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Parce qu'une personne spirituellement mature, c'est-à-dire un père spirituel, connaît ce fait, il ne regarde pas seulement les événements manifestés extérieurement, mais cherche la cause spirituelle en eux. Les gens disent de souvent qu'ils se battent pour des raisons telles que des questions de doctrine religieuse, des méthodes de ministère et des relations humaines. Mais en réalité, le cœur qui ne parvient pas à abandonner ses propres pensées ou le désir d'être reconnu devient souvent la racine du conflit. L'apôtre Paul a également souligné cela en traitant des disputes dans l'église de Corinthe. Dans 1 Épître aux Corinthiens 3, Paul a dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Certains disaient « Je suis de Paul » et d'autres disaient « Je suis d'Apollos », montrant ainsi l'apparence de prendre parti les uns contre les autres. Paul a vu que ce n'était pas une simple différence d'opinion, mais une division provenant d'un cœur charnel. Celui qui est devenu un père spirituel connaît également la méthode par laquelle Satan ébranle l'Église. Satan persécute l'Église de l'extérieur, mais il utilise aussi la méthode consistant à les faire se battre les uns contre les autres de l'intérieur pour affaiblir la communauté. Par conséquent, lorsque des conflits surviennent au sein de l'Église, un leader spirituel ne prend pas simplement le parti des gens, mais essaie de corriger la racine du problème avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et la parole de Dieu. De plus, un père spirituel connaît non seulement la cause de la dispute, mais il connaît aussi la voie de sa résolution. La Bible trouve toujours la voie pour résoudre les conflits dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lorsque l'Église revient à nouveau pour se centrer sur Jésus-Christ, plutôt que d'être centrée sur l'homme, la dispute est naturellement résolue. Par conséquent, lorsque celui qui est devenu un père spirituel voit les disputes des saints, plutôt que d'essayer simplement de juger qui a tort et qui a raison, il regarde d'abord les faits suivants. Premièrement, il examine si le cœur charnel humain est la racine du problème. Deuxièmement, il regarde en arrière pour voir si le centre de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été brouillé. Troisièmement, il vérifie si l'Église évolue d'une manière centrée sur l'homme. Quatrièmement, il examine si les saints ont perdu l'humilité et l'amour. En fin de compte, celui qui est devenu un père spirituel peut être considéré comme un guide qui ne considère pas les disputes des saints comme un simple problème de relations humaines, mais les comprend comme un problème spirituel et essaie d'en discerner et d'en résoudre la cause avec la parole de Dieu et l'Évangile. Lorsqu'un tel guide de l'Église est au sein de l'Église de Dieu, la communauté peut être restaurée à l'unité à nouveau plutôt que d'être dispersée par la division. Paul parle de manière étonnamment directe aux croyants de Corinthe. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Le point important ici est le fait qu'ils ne sont pas des incroyants, mais ceux qui sont en Christ. Le problème est le suivant, c'est que même s'ils ont entendu l'Évangile, ils sont ceux qui n'ont pas compris que les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus, par le baptême que Jésus a reçu de Jean et ont été traités par le jugement de la croix. et que le Seigneur, qui était ressuscité de la mort, est devenu notre Sauveur. Il ne s'accrochait qu'à la signification de la croix de manière partielle, et était ceux qui restaient dans une foi religieuse centrée sur l'homme plutôt que sur Christ. C'est exactement la raison pour laquelle Paul a déclaré « parce que vous êtes encore charnels ». La preuve est claire. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos ». Chaque fois que le centre de la foi passe du parfait ministère rédempteur de Jésus-Christ à l'homme, la foi dérive inévitablement vers une vie religieuse. L'ordre est-il nécessaire au sein de l'Église de Dieu? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui était quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 9. L'ordre est absolument nécessaire au sein du rassemblement des ouvriers de l'Église de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, et enseigne qu'il est important d'établir l'ordre afin que toute chose puisse être faite correctement au sein de la communauté de l'Église. L'apôtre Paul a dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». À cette époque, au sein de l'Église de Corinthe, il y avait des cas où le culte et les rassemblements devenaient chaotiques en raison de plusieurs personnes parlant en même temps ou faisant des réclamations différentes. En corrigeant cette situation, Paul a souligné que tout au sein de l'Église doit être fait dans une direction qui édifie et d'une manière ordonnée. Par conséquent, il a exhorté dans le même chapitre, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il en va de même dans le rassemblement des ouvriers de l'Église. Parce que l'Église n'est pas un simple rassemblement de personnes, mais une communauté qui accomplit l'œuvre de Dieu ensemble, ils doivent partager les rôles et les responsabilités de chacun. S'il n'y a pas d'ordre, chaque personne agira selon ses propres pensées. Et par conséquent, le ministère deviendra chaotique et la possibilité de conflit augmentera. Inversement, si l'ordre est établi, chaque personne connaît clairement la tâche qui lui est assignée et peut coopérer, de sorte que l'Église peut être édifiée plus sainement. La Bible dit également que les rôles confiés à chaque personne au sein de l'Église sont différents les uns des autres. L'apôtre Paul compare l'Église à un corps, expliquant que certaines personnes sont comme des yeux et d'autres comme des mains. Tous les membres ne jouent pas le même rôle, mais lorsqu'ils jouent leur rôle dans leur position respective, le corps entier se meut sainement. Au sein d'une telle structure, l'ordre devient naturellement nécessaire. C'est parce qu'il doit y avoir un ordre pour que les rôles de chacun soient accomplis harmonieusement. De plus, l'ordre n'est pas fait pour réprimer les gens, mais pour protéger la communauté et édifier l'Église. S'il n'y a pas d'ordre au sein de l'Église, les opinions ou les émotions personnelles peuvent facilement prendre le dessus. Et en fin de compte, des disputes ou de la confusion peuvent survenir. Cependant, lorsque l'ordre est établi, l'Église devient une, centrée sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et le ministère peut également être mené de manière stable. La chose importante, cependant, est que l'ordre de l'Église est différent de la structure d'autorité du monde. L'ordre au sein de l'Église n'est pas un pouvoir pour dominer les gens, mais un ordre de service et de responsabilité. Jésus a dit que quiconque veut être un chef doit devenir une personne qui sert les autres. Par conséquent, l'ordre de l'Église n'est pas un ordre de pouvoir, mais un ordre établi dans l'amour et le service. En fin de compte, l'ordre est très important au sein du rassemblement des ouvriers de l'Église de Dieu. L'ordre empêche la confusion dans l'Église et aide la communauté à se mouvoir selon la volonté de Dieu. Cependant, cet ordre n'est pas une autorité qui réprime les gens, mais un ordre centré sur l'Évangile et le service. Et il existe pour édifier l'Église et profiter aux saints. Paul restaure la position originelle des ministres de l'Église qui étaient devenus la cause de la division. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. À la suite de cela, il organise clairement cette question. C'est que Paul a planté et Apollos a arrosé, mais seul Dieu a fait croître. Cela correspond exactement à la structure de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Celui qui plante est celui qui proclame l'Évangile, celui qui arrose est celui qui fournit la parole de nourriture, et celui qui fait croître est le Saint-Esprit, qui est Dieu. Par conséquent, le salut des pécheurs n'est pas achevé par le ministère de la vie religieuse mondaine. Dans l'histoire humaine, ces ministres sont ceux qui guident les autres afin qu'ils puissent croire la parole de l'évangile du salut que Jésus a déjà accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean et la croix. Le fondement du salut a été établi par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et le jugement de la croix. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Le fondement du salut n'est pas posé par l'homme, mais il se trouve dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, par laquelle Jésus-Christ a été baptisé par Jean, a reçu le transfert des péchés du monde, est allé à la croix pour être crucifié et est ressuscité de la mort pour donner le salut à ceux qui croient. L'apôtre Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Cette parole déclare fermement que le fondement du salut ne repose pas sur des œuvres humaines ou des efforts religieux, mais est bâti sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a préparé ce fondement du salut par son propre ministère de justice. Il a été baptisé par Jean-Baptiste pour recevoir le transfert des péchés du monde, a versé son sang sur la croix pour recevoir le jugement des péchés une fois pour toutes, et par sa résurrection de la mort, il a manifesté qu'il avait achevé l'œuvre de salut de l'humanité une fois pour toutes. Par cela, Jésus-Christ est devenu le Sauveur qui a préparé le fondement du salut, c'est-à-dire la base du salut qui accomplit l'enlèvement complet et l'extinction des péchés de l'humanité. Par conséquent, le salut du péché est une vérité qui ne commence pas par la justice ou le mérite humain, mais qui est bâtie sur le baptême et le jugement de la croix que Jésus-Christ a déjà reçu. Les apôtres ont édifié les âmes des gens précisément sur ce fondement du salut. Paul, se désignant lui-même comme un sage architecte, explique qu'il pose le fondement selon le ministère confié par Dieu et que d'autres bâtissent dessus. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 3 verset 10. Ce dont il est question ici n'est pas de créer un nouveau fondement de salut, mais du ministère consistant à bâtir la foi des gens sur le fondement de salut déjà établi de Jésus-Christ. Lorsque les âmes des gens désirent être sauvées par l'effacement de tous ces péchés, le fondement du salut est posé. Lorsqu'ils entendent avec leurs oreilles et croient dans leur cœur par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Romains chapitre 10 verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Lorsque la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est proclamée dans l'Église, les gens en viennent à entendre la parole de l'évangile de la vérité du salut accomplie par Jésus-Christ. Et lorsqu'ils acceptent cette parole de vérité par la foi, leurs âmes expérimentent l'extinction de tous les péchés et sont établies sur le fondement du salut. De plus, édifier les âmes des gens ne signifie pas simplement transmettre des connaissances sur le salut, mais les aider à se tenir sur ce salut avec une foi qui repose sur l'évangile de Jésus-Christ. Les apôtres ne disaient pas aux gens de les suivre, mais étaient ceux qui les exhortaient toujours à avoir la foi qui croit en la justice de Jésus-Christ. Par conséquent, le fondement de l'Église ne se trouve pas dans des dirigeants humains ou des organisations, mais dans les paroles prononcées par Christ, c'est-à-dire dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les âmes bâties de cette manière sur la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit continueront à grandir dans la foi et à se tenir fermement par la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 20, verset 32, Paul dit aux saints « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier ». C'est-à-dire qu'il dit que la parole de Dieu et la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent le fondement du salut qui édifie fermement les âmes des gens. En fin de compte, le fondement du salut se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a personnellement accompli. Les apôtres et ceux qui prêchent à l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui établissent la foi du salut sur le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et le jugement des péchés qu'il a accompli sur la croix et qui témoignent de l'évangile de l'eau et de l'esprit sur ce fondement en rendant grâces à Dieu. Et à mesure que les gens croient en cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont fermement établis sur le fondement du salut et deviennent des personnes d'une foi inébranlable. Une telle personne est en effet une personne de foi véritable se tenant fermement sur la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul utilise la métaphore de la construction pour expliquer la structure de l'Église et de la foi. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé l'évangile du salut afin que vous puissiez croire. Et dans ce verset, il fait la déclaration la plus décisive, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, dont il est question ici, ne signifie pas simplement invoquer son nom ou juste l'événement de la croix. Cela pointe vers le fait qu'il a reçu le transfert des péchés du monde en recevant le baptême de Jean, a reçu le jugement de tous les péchés sur la croix, a versé son sang précieux et est ressuscité de la mort pour devenir le Sauveur. Nous devons savoir que si nous quittons cet évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe le zèle avec lequel nous vivons une vie religieuse et édifions notre foi, cela devient notre propre effort qui n'a absolument rien à voir avec le salut et nous devons retourner dans le ministère du Seigneur. De quel genre de matériaux notre foi est-elle faite? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Il explique par la métaphore de la construction avec quel genre de parole est bâtie et achevée la parole de foi par laquelle nous sommes sauvés de nos péchés. L'apôtre Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens 3 que par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean, les péchés du monde ont reçu le jugement de la croix, de sorte que nous qui croyons sommes délivrés du péché et en venons à vivre comme des soldats spirituels de Christ. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 3 verset 12 dit ceci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Cette parole montre que lorsque notre foi est bâtie, deux types de matériaux peuvent être utilisés. L'un est le matériau de la parole de l'évangile de vérité éternelle tel que la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et l'autre fait référence au matériau du salut reçu par des émotions humaines qui disparaissent facilement, comme le bois, le foin et le chaume. Premièrement, l'or, l'argent et les pierres précieuses peuvent être considérés comme faisant référence au salut bâti sur la foi qui est établie sur la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Cela ne fait pas référence aux pensées humaines ou aux traditions religieuses, mais à la foi bâtie sur la foi qui croit en la parole de la vérité du salut, le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean, le jugement des péchés accompli sur la croix et sa résurrection de la mort. La foi que nous avons bâtie par la direction de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit fait référence à un salut qui ne disparaît pas facilement, même lorsqu'il est éprouvé par le feu, tout comme l'or, l'argent et les pierres précieuses. Une telle foi ne change pas avec le temps et ne vacille pas même au milieu des épreuves et des tribulations de Satan. Inversement, le bois, le foin et le chaume pointent vers une foi bâtie sur des pensées humaines, un zèle religieux ou des activités religieuses extérieures. Extérieurement, elle peut paraître grande et splendide. Mais lorsque sa foi est éprouvée devant Dieu, on voit qu'elle s'effondre facilement. Une telle foi apparaît lorsqu'elle est basée sur des émotions humaines, des traditions ou une foi centrée sur la vie religieuse, plutôt que sur la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul continue en disant « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Le feu dont il était question ici signifie l'épreuve de l'authenticité de la foi qui apparaît lors de la seconde venue de Jésus. La foi bâtie avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses demeure comme une personne juste qui a reçu l'effacement des péchés devant Dieu par la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais les émotions bâties avec des émotions comme celles bâties avec du bois, du foin et du chaume disparaîtront facilement lorsque viendra l'épreuve de la foi. Par conséquent, le matériau par lequel notre foi est achevée ne réside pas dans un simple zèle ou des efforts de zèle religieux. mais doit être bâti sur la foi que nous sommes devenus, ceux qui ont reçu le transfert des péchés du monde par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et ont reçu le jugement des péchés sur la croix. Cela signifie que notre foi est reconnue lorsque nous nous tenons sur la foi qui croit au fait que le Seigneur a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a pris le jugement des péchés en étant crucifié sur la croix. Lorsque cette foi grandit par la direction du Saint-Esprit et la vérité de la parole, notre foi devient de plus en plus solide et s'édifie comme une foi ayant une valeur spirituelle. En fin de compte, l'achèvement du salut dont parle la Bible est la foi bâtie en croyant en la parole de l'évangile de vérité, établie par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une telle foi ne vacille pas avec le temps et demeure une foi précieuse même devant Dieu. Paul parle des matériaux avec lesquels le fondement est bâti sur la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de salut. D'un côté, il y a l'or, l'argent et les pierres précieuses, et de l'autre côté, il y a le bois, le foin et le chaume. Le moment venu, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et si nous nous tenons sur la foi qui croit au baptême de Jésus-Christ et au sang de la croix, ce feu du jugement ne nous brûle pas mais solidifie davantage la qualité de la véritable foi. Du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous croyons au fait que les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême que Jésus a reçu de Jean, le jugement des péchés sur la croix devient la parole de vérité qui nous délivre du jugement de tous les péchés. Une telle foi est évaluée pour la récompense de la foi, mais si le fondement du salut est solide, il devient lui-même honorable en tant que personne qui a été sauvée de ses propres péchés et possède une foi croyante qui surmonte le jugement. Celui qui garde le cœur des justes est-il le Dieu trinitaire ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, 1 Épître aux Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Dans la Bible, l'acte par lequel les justes gardent leur propre cœur est quelque chose qu'ils doivent faire eux-mêmes. C'est aussi quelque chose qu'ils doivent faire eux-mêmes pour que celui qui est devenu juste se tienne dans la foi qui croit en la parole de Dieu et fasse l'œuvre de Dieu. Parce que le cœur humain est faible et facilement ébranlé, si Dieu ne le garde pas, il ne peut pas se tenir parfaitement jusqu'à la fin. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette parole signifie que la paix et la grâce données par Dieu protègent et gardent le cœur d'une personne. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela ne signifie pas qu'une personne puisse protéger complètement son cœur par sa propre force, mais c'est une parole disant qu'une attitude d'éveil selon la parole de Dieu et d'effort pour garder le cœur est nécessaire. Les méthodes par lesquelles les justes gardent leur cœur se manifestent de plusieurs manières. Premièrement, c'est de garder la parole de Dieu en la plaçant dans le cœur. La parole de Dieu devient la puissance pour corriger le cœur et l'empêcher d'être ébranlé. Deuxièmement, c'est de vivre par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le cœur devient stable lorsque l'on regarde la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit accomplie par Dieu et non les pensées ou les émotions humaines et que l'on se tient par la foi. Troisièmement, c'est un cœur qui cherche la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous aide à nous détourner du mauvais chemin. En fin de compte, celui qui garde le cœur des justes de la manière la plus fondamentale est Dieu, et Dieu protège cette personne par la foi qui croit en la parole de Dieu et en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les justes doivent rester éveillés dans la parole de Dieu et vivre pour la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul redéfinit l'identité de la foi de ceux qui sont nés de nouveau. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Par conséquent, tous les actes consistant à diviser l'Église de Dieu, à élever les humains ou à corrompre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit deviennent l'acte de souiller la justice de Dieu. Le véritable fondement de notre foi peut changer le monde entier par la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quel est le résultat pour ceux qui essaient de tromper le Seigneur ? Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. première épître aux Corinthiens chapitre 3, versets 18 à 20. La Bible montre clairement que le résultat pour ceux qui essaient de tromper le Seigneur est très sévère. À cet égard, l'incident le plus représentatif dans la Bible est l'incident d'Ananias et Saphira apparaissant dans le chapitre 5 des Actes. Les saints de l'Église primitive partageaient leurs biens les uns avec les autres dans l'amour et servaient à la communauté. Ananias et Saphira ont vendu un champ et ont fait une offrande, parlant comme s'ils avaient tout offert. Mais en réalité, ils en ont caché une partie. Cela en soi n'était pas le problème, mais le cœur qui essayait de tromper Dieu tout en apparaissant aux gens comme s'ils étaient dévoués était le problème. L'apôtre Pierre leur a dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Actes chapitre 5, versets 3 à 4. En conséquence, Ananias et Saphira ont reçu le jugement de Dieu et sont morts sur le coup. Et par cet incident, toute l'Église et le peuple en sont venus à craindre Dieu. La leçon importante que cet incident montre est le fait que Dieu regarde la sincérité du cœur plutôt que les actions extérieures. Une personne pourrait être capable de tromper d'autres personnes, mais elle ne peut pas tromper Dieu. C'est parce que tout est révélé devant Dieu. De plus, la Bible dit que le cœur qui essaie de tromper Dieu conduit finalement au résultat de se tromper soi-même. Galates chapitre 6 verset 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » L'action d'essayer de tromper Dieu devient finalement une attitude de mépris envers Dieu, et son résultat apparaîtra sûrement. Cependant, le message de la Bible ne réside pas simplement dans l'accent mis sur le jugement du péché. Dieu exige d'une personne un cœur honnête et sincère. Devant Dieu, une foi sincère et un cœur d'humilité sont plus importants que les mérites ou l'apparence extérieure d'une personne. Dieu ne cherche pas une personne parfaite, mais il prend plaisir en une personne qui se tient sincèrement devant Dieu. Par conséquent, le résultat de ceux qui essaient de tromper le Seigneur se manifeste finalement comme suit. Premièrement, cette fausseté sera révélée devant Dieu. Deuxièmement, ils peuvent recevoir la réprimande ou le jugement de Dieu. Troisièmement, ils récolteront finalement les résultats exactement comme ils ont semé. À travers ces faits, la Bible nous enseigne à nous tenir sur une foi sincère et non sur l'apparence extérieure devant Dieu, parce que Dieu est celui qui regarde au cœur plutôt qu'aux actions d'une personne. La relation avec Dieu doit être bâtie avant tout sur un cœur honnête et sur la foi qui croit en la parole sincère de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Paul revient à nouveau sur la question de la sagesse. « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » La sagesse de ce monde interprète tout à travers les désirs humains et tombe dans la folie. Une personne qui est vraiment sage se tient fermement par la foi dans le Sauveur qui, par le ministère de la réception du baptême de Jean, a reçu le transfert des péchés du monde sur lui-même, a été crucifié et était ressuscité des morts. Cependant, ceux qui ne le font pas tombent dans la religion mondaine et deviennent ceux qui cherchent à être reconnus par les gens. De telles personnes ne sont rien d'autre que des insensés devant Dieu. Dieu est celui qui doit être loué, et l'homme est celui qui doit recevoir miséricorde. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Première épître aux Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. Le Saint Dieu Trinitaire est celui qui doit recevoir louange et gloire pour toujours de la part de tous les peuples, et l'homme est un être qui doit recevoir miséricorde et grâce devant lui. La Bible montre clairement quel genre d'être est Dieu et quel genre d'être est l'homme. Et lorsqu'une personne connaît ces deux faits, elle peut avoir la bonne attitude devant Dieu. Premièrement, le Saint Dieu Trinitaire est celui qui doit être loué pour toujours. Dieu est celui qui a créé le monde et qui règne sur toutes choses, et celui qui a accompli l'étonnante histoire du salut pour sauver l'humanité. Dieu le Père a établi le plan de salut dès avant la création du monde, et Dieu le Fils, Jésus-Christ, est venu sur cette terre, a pris en charge les péchés de l'humanité, a reçu le jugement du péché sur la croix, est ressuscité de la mort et est devenu le Dieu de ceux qui croient. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit œuvrent ensemble dans le ministère qui accomplit le salut de l'humanité. Par conséquent, la Bible dit de rendre gloire et louange à Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 11 déclare « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » D'autre part, l'homme est un être qui doit recevoir miséricorde devant Dieu. La Bible dit que tous les hommes sont sous le péché et explique que l'homme par lui-même est quelqu'un qui ne peut prétendre être juste devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme n'est pas un être qui peut se tenir devant Dieu par ses propres actions ou capacités, mais il ne peut former une relation avec Dieu que lorsqu'il y a la grâce et la miséricorde accordées par Dieu. Par conséquent, la Bible n'explique pas le salut par le mérite humain, mais l'explique par la miséricorde et la grâce de Dieu. Tite chapitre 3, verset 5 dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Cette parole dit qu'il n'y a rien dont l'homme puisse se vanter devant Dieu et qu'il est sauvé uniquement par la miséricorde de Dieu. Ainsi, la relation entre Dieu et l'homme est très claire. Dieu est celui qui doit recevoir gloire et louange et l'homme est un être qui doit vivre en recevant grâce et miséricorde devant ce Dieu. Lorsqu'une personne s'élève elle-même ou prétend être juste par elle-même devant Dieu, la foi s'égare. Lorsque nous savons correctement quel genre d'être est Dieu et quel genre d'être est l'homme, un cœur d'humilité et de foi surgit naturellement. En fin de compte, le cœur de la foi est ceci. La gloire et la louange doivent être rendues à Dieu et l'homme doit accepter la miséricorde et la grâce accordées par Dieu avec reconnaissance à travers la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Le Saint Dieu Trinitaire est celui qui doit être loué pour toujours. Et l'homme est un être qui doit vivre par la foi dans le ministère de salut qu'il a accompli. Par conséquent, la vie des saints doit devenir une vie vécue en louant la grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu par la foi. Paul conclut ce chapitre par une déclaration retentissante. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. La raison est claire. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. L'ordre de la foi coule de Dieu à Christ, de Christ au croyant, et du croyant à toute chose. Il n'y a pas de place pour que l'homme s'immisce dans cet ordre divin. Le chapitre 3 de 1 Épître aux Corinthiens nous demande aujourd'hui « Votre foi est-elle bâtie sur des doctrines religieuses créées par l'homme, ou est-elle bâtie sur la foi qui croit en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur ?» Un sermon de Paul C. Jong, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 3. Bien-aimés saints, aujourd'hui, à travers la parole du chapitre 3 de 1 Épître aux Corinthiens, nous allons examiner sur quoi l'Église établie par Dieu doit se tenir et par la foi en quel genre d'évangile la véritable foi grandit. Cette parole ne se contente pas de souligner les problèmes de l'Église, mais révèle sous quelle forme une Église qui ne parvient pas à se tenir sur l'évangile de l'eau et de l'esprit apparaît dans ce monde. L'apôtre Paul prononce des paroles très choquantes à l'égard de l'Église de Corinthe. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Ils disaient croire en Jésus, mais en réalité, ils restaient dans un état charnel. Pourquoi cela? C'est parce que leur foi qui croit en Jésus-Christ, qui est apparue comme la révélation de la parole de Dieu, est gravement déficiente. Paul dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. » Ici, le lait signifie le fondement de l'Évangile. Cependant, le problème est qu'ils ne connaissent pas le fait que ce fondement n'est pas une simple connaissance, mais qu'il est structuré par l'Évangile fait de la parole que Jésus a accomplie par Jean. Si notre foi n'est pas faite de la révélation de la parole que la parole de Dieu montre, peu importe le temps qui passe, la foi ne grandit pas. À l'intérieur de l'église de Corinthe, il y avait de la jalousie et des disputes. Ils se divisaient en suivant des hommes, disant « Je suis de Paul, je suis d'Apollos ». Ce n'est pas une simple question de préférence personnelle. C'est un phénomène qui apparaît lorsque l'on ne sait pas que l'évangile de l'eau et de l'esprit est fait par la révélation de Dieu. Parce que pour connaître avec précision l'évangile de l'eau et de l'esprit, il doit y avoir la révélation que la parole de Dieu montre. Paul dit ceci en résolvant ce problème. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est-à-dire que l'homme n'est qu'un instrument et celui qui enseigne l'évangile de la vérité de la foi est Dieu. Et le contenu de cette foi se trouve dans la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, que Dieu a déjà montrée. Dans les paroles suivantes, Paul présente un principe important. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Ici, nous pouvons savoir que la révélation de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être précise pour que la croissance de la foi se produise correctement. S'il n'y a pas de révélation de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dès le début, peu importe avec quelle diligence on croit en Jésus et on vit une vie de foi, en fin de compte, on ne peut pas échapper aux pensées charnelles. Bien-aimé, le vrai problème est celui-ci. Les gens attribuent à la raison pour laquelle leur foi ne grandit pas à leur manque d'effort ou à leur environnement. Cependant, la Bible parle différemment. Cela dépend de la perfection avec laquelle on a pris conscience de la parole évangélique de l'eau et de l'esprit par la révélation de la parole de Dieu. Si l'on ne connaît que partiellement la croix de Jésus et que l'on ne connaît pas la révélation de la parole selon laquelle les péchés du monde ont été transférés par le baptême que Jésus a reçu de Jean, le péché demeure encore dans ce cœur. Si cela se produit, l'homme dérive finalement vers une foi qui s'appuie sur ses propres œuvres et émotions. Par conséquent, Paul déclare « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Le fondement dont il est question ici pointe vers le baptême de Jésus et le sang de la croix que la parole de Dieu montre. La simple pensée de croire en Jésus ne peut être appelée véritable foi qui vient de la révélation de la parole de Dieu. Il faut savoir par la révélation de la parole de quelle manière Jésus a reçu le transfert de nos péchés et comment il a complètement reçu le jugement de ce péché sur la croix et est ressuscité de la mort. C'est parce que le fait que Jésus a reçu le transfert des péchés du monde en recevant le baptême de Jean, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix et est ensuite ressuscité de la mort pour devenir notre sauveur, ne peut être compris que lorsque la parole de Dieu l'ouvre et le montre. Il est important de savoir si nous bâtissons notre foi sur la parole de vérité, manifestée dans la parole de Dieu. Paul utilise la métaphore de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et du bois, du foin, du chaume. Cela ne parle pas simplement de nos pensées et de nos actions, mais cela parle de savoir si la foi est bâtie sur l'évangile de l'eau et de l'esprit que la parole de Dieu montre. Il a dit que si ce n'est pas une foi bâtie sur la parole de Dieu, tout sera révélé lorsqu'il y aura le jugement de Dieu. En fin de compte, lorsque l'on se tient devant Dieu, il est clairement révélé s'il s'agit d'une foi bâtie sur la parole évangélique de l'eau et de l'esprit ou non, de sorte qu'il y a ceux qui sont reconnus par Dieu et ceux qui sont jugés. De plus, Paul dit ceci à propos de l'Église. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ici, le temple pointe vers le cœur de la personne née de nouveau dont parle la parole de Dieu. Nous sommes des personnes de foi qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit manifesté dans les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit de Dieu est celui qui habite dans le cœur des justes. C'est le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur du cœur de la personne dont le problème du péché a été effacé et enlevé par le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sang de la croix. Si le péché demeure encore dans votre cœur, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans votre cœur dans cet état. Ainsi, Paul avertit fortement « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ». Cela ne parle pas seulement de corruption morale. Il dit que le jugement de Dieu vient sur ceux qui déforment la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Si l'on méprise la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et que l'on croit aux doctrines théologiques ou aux sermons faits par les pensées de l'homme, on devient une personne qui méprise la parole de Dieu. Celui qui croit en Jésus comme le Sauveur selon ses propres pensées est celui qui souille le nom de Dieu. Enfin, Paul dit ceci. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. C'est la conclusion. La personne qui connaît et croit avec précision l'évangile de l'eau et de l'esprit que la parole de Dieu montre reçoit le salut de ses péchés. Notre salut ne réside pas dans le mérite ou l'effort de l'homme, mais il est accompli par la foi qui croit la parole évangélique de l'eau et de l'esprit que la parole de Dieu montre. Bien-aimés saints, le chapitre 3 de 1 Épître aux Corinthiens nous demande clairement « Votre foi se tient-elle sur vos pensées ?» Si ce fondement se tient sur les pensées ou les émotions de l'homme, ou sur une foi partiellement expérientielle, il sera sûrement ébranlé. Cependant, il est dit que s'il se tient sur la révélation de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont Jésus a parlé, cette foi ne s'effondrera jamais. Maintenant, nous devons retourner dans la révélation de la parole de Dieu. Nous devons devenir des croyants qui retournent à la foi qui croit au Seigneur qui a reçu le baptême de Jean pour recevoir le transfert des péchés du monde, a pris le jugement du péché sur la croix et est ressuscité de la mort. Nous devons bâtir notre foi sur l'évangile du salut bâti sur cette parole parfaite de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous vivrons en Jésus, avec la foi que nous ne sommes plus ceux qui appartiennent à la chair, mais ceux qui sont nés de nouveau dans le Saint-Esprit. J'espère que cette parole évangélique de l'eau et de l'Esprit devient le fondement de votre foi dès maintenant. Ainsi, j'espère que vous deviendrez ceux qui se tiennent fermement sur la parole de Dieu.